Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de François Bell. Bonsoir François Bell.
Bonsoir Alban Pénaranda.
Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, nous écouterons Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, Olivier Messiaen et Karl-Heinz Stockhausen. Puis, les musiques du GRM, Voyage au centre de la tête, extrait d'un atelier de création radiophonique intitulé Son vitesse-lumière, Bernard Noël, Maurice Merleau-Ponty et Gaston Bachelard. Naturellement, François Bell, dans votre nuit rêvée, il sera abondamment question du GRM, du groupe de recherche musicale que vous avez rejoint dès sa création en 1958, avant d'en être le directeur pendant 30 ans. De la musique concrète, de l'aventure initiée par Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, vous êtes l'un des historiques et l'un de ses grands créateurs. Avec les archives que vous avez très soigneusement choisies, cette nuit passée en votre compagnie sera l'occasion de revenir sur l'histoire du GRM et de la musique concrète, de mieux comprendre cette musique toujours très mal connue, le plus souvent passée sous silence, qui a pourtant eu, et a peut-être encore, vous nous le direz, une influence majeure sur toute la musique, toutes les musiques de notre temps. Avec vous, François Bell, nous referons votre parcours, le voyage qui vous a mené de Madagascar, où vous êtes né, à la rue de la Harpe, où vous avez votre studio, Magisson, en évoquant quelques-uns de ceux qui ont compté dans votre existence et en vous écoutant nous dire à quelle source se nourrissent vos créations sonores, comment elles s'élaborent, comment elles voient le jour. François Bell, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous présentez-vous ? Comme un musicien, un compositeur ?
Oh mon Dieu, c'est difficile. D'abord, je vous remercie d'avoir pensé à me retrouver, toujours là encore, pour quelques années peut-être. Je me présente comme quelqu'un qui ne sait pas trop s'il est un compositeur ou s'il est plutôt un organisateur de la composition. Finalement, je dirais que je suis un témoin du XXe siècle, voilà. Ça sera peut-être ça ma caractéristique essentielle. Drôle de siècle. Et là, nous sommes au 21e, donc on a un peu de recul pour en parler.
Musique concrète, musique électroacoustique, musique électronique, acousmatique, que recouvre chacun de ces termes ? Tout cela désigne-t-il la même chose ou au contraire des approches différentes de la musique et des sons ?
Mais il faut savoir que, bien sûr, la musique évolue constamment, puisque c'est un art vivant et un art qui, comme les vagues de la mer,
est
poussé par le vent de l'esprit. Et donc, ça bouge toujours. C'est une tempête, et puis aussi des accalmies, des périodes merveilleuses, et puis des périodes turbulentes. La grande turbulence a commencé avec le début du XXe siècle. C'est Stravinsky, c'est Debussy, c'est aussi, peu de temps après, Ravel, Varèse, c'est-à-dire l'arrivée de la technologie, grosso modo. Le chemin de fer, on a oublié que le chemin de fer, par exemple, est à l'origine de la synchronisation des horloges, parce qu'il ne fallait pas que les trains se retrouvent nez à nez sur les mêmes voies. Et dans chaque pays, le temps était donné par l'horloge locale, donc différent. Une conception du XXe siècle a été d'imaginer un temps global. Alors ça, c'est déjà un phénomène extraordinaire, ça, extraordinaire. Et puis, sans parler du bruit, les bruits des machines. Alors, les premières musiques du XXe siècle ont imité le bruit des machines, des locomotives essentiellement, de l'industrie, des marteaux-pilons, et puis aussi de la société. C'est l'époque des révolutions sociales. Voilà, alors, on peut dire que c'est un sacré remue-ménage. Et quand on écoute la musique dite moderne, eh bien, on entend ce tapage terrible d'une société qui est passée de la modalité archaïque, de l'homme à pied ou à la rigueur à cheval, à l'homme industriel, donc armé de marteaux-pilons et montant dans des trains lancés à toute vapeur, c'est-à-dire à 30 km à l'heure, s'engageant dans des tunnels où, paraît-il, au départ, les scientifiques craignaient que cela arrache la tête des voyageurs. Et puis petit à petit aussi, montant en ballon, en aéroplane, voilà l'homme du XXe siècle, pas mal bousculé. Sa musique, évidemment, non seulement trahit cette bousculade, mais très souvent la devance, parce que la musique plus légère est toujours en avance, un petit peu. Sur son temps, elle l'annonce en tout cas. Mais parmi toutes les révolutions qui donc se succèdent à une cadence accélérée, puis sont toutes aussi bouleversantes les unes que les autres, il y a les guerres. Et ce concept malheureusement terriblement moderne des guerres mondiales. Et voilà. Et moi, je suis, on en reparlera plus tard, le fils d'un rescapé de la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce que nous ont apporté les guerres mondiales? Ben, évidemment, des crimes à l'échelle mondiale, des désastres à des dimensions inusitées. Et aussi, la manière de tenter d'y remédier par des dispositifs de communication de plus en plus complexes. Et là, je viens tout doucement d'amener le phénomène de la radio. La radio a été un des fruits capables d'aider à se transmettre des informations et capables aussi, et là on arrive enfin à un plateau plus plaisant, capables aussi d'être utilisés en temps de paix pour le bien-être et pour le rêve, après avoir traversé peut-être une finalité beaucoup plus polémique au départ. Alors voilà, donc, puis quand je dis la radio, il n'y a pas que la radio, hein, c'est pas que le son était plus facile peut-être, mais l'image, bon, il y avait les photographes, mais l'image animée, le cinéma. Alors, on peut dire l'avion, la locomotive, les machines, les armes, mais heureusement aussi la radio et le cinéma, c'est-à-dire des arts, pas seulement des armes. Et voilà, donc je suis j'ai eu la chance, ou la malchance, mais enfin parlons de la chance, de naître dans ce terrible XXe siècle, et plutôt dans sa deuxième moitié, la plus paisible, et pourtant la plus bouleversée, puisque guerre mondiale, pas seulement une, mais deux. Voilà. Alors la radio, le cinéma, les arts technologiques partagent justement cet étrange attrait de provoquer, d'envahir le flux perceptif. C'est peut-être de cela qu'on va parler.
Et justement, que fabrique Pierre Schaeffer à la RTF à la fin des années 40? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui le pousse ainsi à jouer des micros et des appareils qui l'entourent? François Bell.
Son démon personnel. Lui aussi, il est tombé, mais enfin bon, c'est un homme d'une génération antérieure. 20 ans nous séparent. Il est tombé aussi à pieds joints dans cette période bouleversée. Et il a utilisé la radio d'abord comme résistant pour communiquer des informations de sauvegarde, de survie, en courant tous les dangers qu'on peut imaginer, et puis en réchappant, alors que bien de ses camarades, malheureusement, ils ont laissé leur peau et leur nom sur des bâtiments, le centre de Vez, etc., le centre Bourdan, des noms des résistants de la radio. Dieu merci pour lui, il n'y a pas de centrale chez Fer parce qu'il a survécu, et tant mieux. Et voilà, la paix est revenue. C'était un homme qui s'est intéressé au microphone et à la transmission. Il s'est intéressé à l'arrivée, au bouleversement provoqué justement par l'attitude radiophonique dans le métier des comédiens. Il a connu Jacques Copeau, le vieux Colombier, la manière dont le théâtre pouvait être radiodiffusé. Et c'est à dessein que je prends le mot théâtre, parce que la musique concrète est un enfant du théâtre, c'est une musique théâtrale finalement, c'est le théâtre de l'existence, c'est le théâtre des bruits, de la vie, et aussi des histoires extraordinaires, fabuleuses, ailées, imaginaires, et le son est porteur d'imaginaire, le décor sonore a été une des idées schéfferiennes. La manière de parler, la manière de prononcer, d'utiliser la distance, par exemple, on peut parler à la radio de façon très proche et intime. Mais on peut crier et puis faire venir des bruits, des cataractes, des claquements de porte, des coups de poing sur la table. Bon, on peut faire du concret à la radio, simuler ce concret, le lancer, le proposer comme des sonorités de vie, des démonstrations, des différentes capacités de notre oreille à décoder non pas que du sens, mais aussi de l'environnement. Alors voilà, il s'agissait donc au départ d'aider. Alors, est-ce que la radio sortie de la guerre est devenue une radio de paix, c'est-à-dire de divertissement, de rêve, d'entretien? Et donc, la radio d'essai fut le berceau de la musique concrète. Et petit à petit, tout d'un coup, est venue à l'idée de Schaeffer de faire une radio où il n'y aurait plus de signification verbale. C'est-à-dire, ce seraient les bruits eux-mêmes qui seraient l'histoire. L'idée de faire une symphonie de bruit. Drôle d'idée quand même, drôle d'idée. Bien sûr, il faut mettre ça dans le contexte de l'évolution de la musique. Le bruit était déjà entré dans l'orchestre avec Stravinsky, avec Varèse, avec Eric Satie qui dans son ballet Parade, avait mis des machines à écrire. Des sirènes, voilà. Barès avait utilisé aussi, par exemple, l'idée d'ionisation, de n'employer que des instruments de percussion, dont un piano, mais pas un piano joué comme un pianiste, hein, joué avec des avant-bras. Bon, c'était évidemment très bruiteux. Enfin, ça restait finalement bruteux mais culturel, c'est-à-dire qu'on voyait un orchestre qui faisait son travail d'orchestre, et même quand les musiciens faisaient des choses incongrues, on savait que c'était des prix de conservatoire, c'était écouté d'une autre oreille. Beaucoup plus révolutionnaire est l'idée, tout d'un coup, de projeter par radiodiffusion des séquences de bruit pur, organisé, comme disait d'ailleurs le mot est de Varèse, comme disait ce musicien, organisé, c'est-à-dire choisi et mis ensemble avec art pour raconter une histoire qui ne soit pas anecdotique, qui soit artistique, qui soit créative et imaginaire. Voilà la musique concrète.
Pierre Schaeffer, on le retrouve avec Pierre-Henri dans la première archive au programme de votre nuit, intitulée « Il y a 30 ans, la musique concrète », une émission proposée par Roger Pilaudin en 1979. Pierre Schaeffer a fondé le groupe de recherche musicale, le GRM, vous serez donc à sa tête pendant 30 ans, nous en parlerons plus tard dans la nuit. Comment s'est faite votre rencontre avec Pierre Schaeffer et comment se sont passés les premiers temps de votre collaboration au GRM ?
Et à ce moment-là, j'étais jeune et bordelais. Bordelais d'occasion, on y reviendra, parce que c'était à la fin de la guerre, le retour de mes parents, et donc moi aussi, dans la métropole. J'avais à ce moment-là 13-14 ans. Et je me suis retrouvé pensionnaire, après avoir vécu dans la nature vierge presque, pensionnaire à Bordeaux, par un hiver terrible. Cette année-là, il faisait très très froid, et moi qui n'avais connu que des températures tropicales. Donc, ça a été un choc assez violent, mais on reviendra là-dessus peut-être plus tard, et dont j'ai eu du mal à me relever. Je ne sais pas si je m'en suis même jamais relevé, à vrai dire. Et en tout cas, un des refuges, parce que ça se trouvait comme ça à l'époque, un des refuges pour, en tant que jeune pensionnaire, était d'écouter la radio par une petite technologie très sympathique qui s'appelait des postes à galène. La galène est un petit minerai de plomb qui permet, par un micro-contact un petit peu bizarre à expliquer techniquement, mais laissons tomber la technique, de capter une onde qui peut, grâce à un potentiomètre, peut être accordée sur une fréquence d'émission. Bref, avec un petit outil qui n'était pas plus gros qu'un gobelet de café, on pouvait attraper la radio de l'époque. Et j'écoutais la radio de l'époque. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec des émissions. Notamment, je me rappelle d'une émission les entretiens avec Colette. Et j'écoutais cette émission avec délice toutes les semaines. Non pas pour son contenu, parce que Colette était interrogée par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui est très célèbre. Et Colette parlait avec un terrible accent bourguignon dont je ne comprenais qu'à peine la moitié. Mais cette émission était habillée, comme on dit. Elle avait un générique de début et un générique de fin. Et à cette époque-là, les génériques étaient très longs, de presque une minute ou deux. Et c'était pour moi un ravissement parce que je n'avais jamais entendu ce qui était donné comme générique, qui n'était autre que la sonatine de Maurice Ravel pour piano, et je ne connaissais même pas le nom de Ravel, encore moins ce type de musique pianistique et cette manière, cette liquidité extraordinaire qui, par la radio, prenait une valeur encore plus étrange, encore plus irréelle. Et je dois dire que ça a été, pour moi, c'était tellement frappant que, voilà, même quand j'y pense, je n'en reviens toujours pas. Et ça a motivé toute ma vie. Voilà comment je suis rentré en contact avec l'imaginaire auditif par le médium radiophonique. Plus tard, en venant plus auprès de l'origine de tout cela, je suis remonté à Paris, comme on dit. Et là, j'ai voulu rencontrer un peu plus ce qui me faisait tellement de plaisir et de joie d'entendre. Et c'est comme ça que j'ai connu, très difficilement d'ailleurs, les débuts du groupe de recherche musicale.
Et comment se passait le travail avec Pierre Schaeffer, François?
Le travail, ça a été plus tard. Parce que à ce moment-là, il faut dire aussi que je n'avais pas conscience de la difficulté dans laquelle les essais de Schaeffer tentaient de voir le jour. Ce n'était pas facile du tout. C'était de la contrebande. Schaeffer faisait ça un peu en douce de toutes les administrations. Il n'était pas du tout payé pour ça. Il était un ingénieur. Il était chargé de s'occuper des microphones, je crois. C'était ça, son boulot. Et du plan d'équipement de la radio en tant que directeur, jeune directeur. Mais dans son temps libre, comme il était très actif, il s'intéressait beaucoup au contenu. Mais ça, personne ne lui demandait de s'intéresser au contenu. On lui demandait de s'intéresser aux appareils et aux commandes d'équipement. Mais Schaeffer a toujours été rétif et ce qui l'intéressait, c'était finalement la communication qui était spéciale, qui était transformée par le médium même. Donc il s'intéressait aux comédiens qui parlaient devant le micro et à la façon peut-être de les diriger pour leur faire dire quelque chose de différent de l'habitude. Et donc, de l'environner justement par ce décor sonore, l'idée du décor sonore, des différents registres de plans, d'être loin du micro ou très près, de faire intervenir des éléments hétérogènes dans la chaîne auditive, c'est ça qui le passionnait. Et Et tout ça dans la clandestinité, on peut dire, un petit peu dans le dos de l'administration. L'administration, elle a une face, mais elle a aussi un dos. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, en général, dans le dos des administrations. Si on est là aujourd'hui, et si la radio de culture existe, on peut dire qu'elle le doit à tous ces gens qui ont travaillé en plus de leur temps et en dehors de leur mission pour créer une radio d'idées. Une radio de plaisir de l'intelligence. Les administrations se contenteraient largement de l'information pure et simple. Voilà. Et donc, Schaeffer a vécu toutes ces extensions complètement imprévues dans la plus grande des difficultés. Et ses collaborateurs, c'était des proches. Personne n'était payé. Tout le monde faisait... le don de son temps et de son imagination. Et moi-même, quand je me suis approché, bien sûr, j'ai tourné autour, il n'y avait pas de place. Il fallait rentrer par la fenêtre. J'avais pris un boulot très sympathique. J'étais instituteur. À cette époque, il suffisait de se pointer à l'administration d'éducation nationale et on vous prenait d'emblée sur le baccalauréat que j'avais. Et puis, des petits diplômes très simples. Et j'ai été pendant 5 ans instituteur, ce qui était d'ailleurs un grand plaisir de mon existence. Mais qui me donnait beaucoup de temps libre, 3 mois de vacances, libre à 4 heures de l'après-midi, 3 jours par semaine, etc. Donc ça me laissait le temps d'aller suivre la classe de Messiaen au conservatoire et le soir, l'après-midi et le soir, des séances un petit peu magiques que je tenais chez Fer sous couvert de recherche. Voilà. Ouais.
On entendra donc Pierre Schaeffer en compagnie de Pierre-Henri. Quelle est l'importance de Pierre-Henri dans la musique de son siècle? Quelle est l'importance de son œuvre?
Schaeffer a eu le don, toute sa vie, de chercher des hommes.
Ah, il dit qu'il ne les cherchait pas d'ailleurs dans l'archive, il dit que les hommes venaient à lui.
Oui, mais il les cherchait et quand même, et il les voulait. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quand il cherchait, il ne les trouvait pas. Mais que les hommes se présentaient. C'est un petit peu vite dit. Il les cherchait. Il était extrêmement intéressé. Et bien sûr, il s'en présentait beaucoup, qui ne valaient pas davantage qu'un aller-retour. Mais de temps en temps, surgissait ce qu'on pourrait appeler l'homme de la situation. Schaeffer était très maladroit de ses mains, très agile de ses oreilles. Et ne pouvait pas tout faire. Ce qui fait que quand il a eu cette idée saugrenue d'envisager une symphonie de bruit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait hausser la capacité des bruits à la virtuosité d'un instrumentarium symphonique. Symphonie, hein, il disait. Mais il lui fallait pour cela des aides et il fallait des symphonistes. Et par le truchement d'Olivier Messiaen, Pierre-Henri, qui dit s'être présenté tout seul, c'était tout de même pas tout à fait la réalité. Messiaen a suggéré à Schaeffer ce jeune percussionniste dont il avait connaissance. Et c'est comme ça que la rencontre positive s'est produite. Et ça a été évidemment l'homme de la situation parce qu'il a parfaitement compris la situation. Il la vivait lui-même. À la limite, peut-être n'aurait-il pas eu besoin de Schaeffer. Il aurait trouvé la musique concrète tout seul. Mais c'est tout de même Schaeffer, son aîné, qui l'a mis sur la voie et qui lui a prêté son oreille critique.
Pierre-Henri a été une référence pour plusieurs générations de musiciens dans le rock progressif et plus tard la techno. Mais il regrettait que la plupart du temps, on se soit intéressé aux outils, aux machines, plutôt qu'à sa musique et à la musique concrète. Vous avez vous-même collaboré avec des musiciens venus d'autres horizons que le vôtre, je pense à Robert Wyatt en particulier. Comment jugez-vous l'influence de la recherche musicale, de la musique acousmatique sur le rock, la pop musique, la techno et autres genres musicaux ?
On écoutera plus tard dans la soirée ce très beau dialogue entre Schaeffer et Henri, qui se remémorent leur passé relativement proche à l'époque, puisque cette archive date de 78. 78, Schaeffer était né en 1910, c'est-à-dire qu'il avait dépassé, il était un jeune retraité, il n'était plus actif, Schaeffer. Pierre-Henri était par contre dans le summum de son activité, sa voix juvénile le montre très très bien. Et ils se disent des choses, on dirait, pour la première fois. On dirait qu'ils se parlent pour la première fois, à fond. Et ils vont au fond. Ils vont jusqu'au fond. Et ça, c'est une archive extrêmement précieuse sur le plan musicologique, à mon avis. Donc, je suis très très content qu'on puisse la
faire entendre.
La faire entendre et la connaître. Je pense que y a plus grand monde qui l'ont connue. Et par contre, il va y avoir énormément de monde qui vont en prendre connaissance pour la première fois. Ce sera aussi le cas avec une autre archive très intéressante de Goléa qui interroge Olivier Messiaen, lequel dit tout ce qu'il pense de bien du travail de Pierre Schaeffer et aussi de Pierre-Henri et aussi de Stockhausen. Donc on prendra connaissance avec, je pense, passion de ces moments historiques extrêmement forts. Je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé. L'influence sur la rock attitude, oui. Écoutez, ça, je crois que c'est un phénomène d'époque. Les musiques qui nous intéressaient, Pierre-Henri et moi-même, sont les musiques symphoniques. C'est les musiques savantes, c'est les musiques complexes, élaborées, et qui viennent succéder aux musiques antérieures, aux grands compositeurs antérieurs. Mais les sons très très rauques, très primitifs des premières essais électroacoustiques, bien sûr, avaient peut-être un ambitus plus large et intéressaient peut-être la musique, les oreilles des musiciens de variété et les percussionnistes et les musiciens de la, au fond, de la tradition plutôt populaire. Alors, il y a eu des croisements. Ces croisements ont été plus ou moins féconds. Je pense que ça a plus fait monter la qualité de la musique pop, que ça n'a amélioré la qualité symphonique des musiques électroacoustiques, qui, à mon avis, n'en avait pas besoin. Donc, c'est relativement un malentendu. Pierre-Henri, d'ailleurs, est assez ambigu, parce qu'il était très content, évidemment, du succès populaire, qui lui ramenait beaucoup de droits d'auteur et beaucoup de considérations. Mais en même temps, il savait très bien que c'était pas du tout son chemin, et lui voulait faire de la musique pour les mélomanes, avertis, pour les gens qui aimaient Wagner, pour les gens qui aimaient Beethoven. Il a fait une 10e symphonie de Beethoven, il a mélangé du Schubert avec des sons électroniques. Voilà. Donc tout ça, des malentendus jaillissent souvent, parfois, la lumière.
Dans l'évolution de la musique contemporaine, disons de la musique de ces 25 dernières années, je crois qu'il y a une chose qui a été très marquante et qui est un domaine que vous n'avez pas abordé, qui est la musique électronique ou électroacoustique. Quel est votre sentiment sur cette musique qui représente, semble-t-il, la vraie nouveauté de ce dernier quart de siècle ?
Alors, mon opinion, je vais tâcher de vous la résumer en faisant une histoire de la musique très courte. La musique modale a duré des siècles et des siècles. Ça a commencé avec l'ancienne Égypte, les anciens Hébreux, les Hittites, les noms ne me viennent pas à l'esprit, les Sumériens. Tout ça, c'était modal pendant des siècles. Et puis, il y a eu la musique soi-disant tonale.
Pourquoi soi-disant ?
Parce que tout ça sont des mots, à mon avis, qui sont très utiles pour les dictionnaires, mais qui ne correspondent pas à des réalités totales. Alors, il y a eu des musiques soi-disant tonales. Mon Dieu, admettons qu'elle commence avec Monteverde, qui a Mozart et qui a Beethoven. Avec Wagner, ça commence déjà à changer. Alors après, il y a eu la musique soi-disant sérielle, mais la musique tonale, alors que la musique modale avait duré des siècles, et qu'elle a eu son apogée avec le chant grégorien, la musique tonale a duré, mettons, 3 ou 4 siècles, pas plus. La musique sérielle a duré, pour être gentil, 60 ans. Et les écoles actuelles, l'école répétitive, l'école aléatoire, et tant d'autres écoles, elles durent quelques mois, quelques jours. Enfin, c'est de plus en plus court. Ah oui, c'est affolant, d'ailleurs. C'est affolant. C'est comme les progrès scientifiques, c'est de plus en plus rapide. Mais dans toutes ces choses-là, au XXe siècle, où il y a eu tant de choses et tant de progrès scientifiques, tant de progrès en ornithologie, justement, et aussi en astronomie, il y a une chose qui frappe, vous l'avez dit, c'est la musique électronique. Je crois que c'est la principale invention du XXe siècle, et c'est probablement celle qui a le plus marqué tous les compositeurs, parce qu'il y a des compositeurs qui font de la musique électronique, comme Pierre Henry, qui est spécialiste.
Qui a été aussi votre élève.
Qui a été aussi mon élève, que j'ai connu tout petit, j'ai connu, il avait 9 ans, c'était mon voisin. Mais presque tous les compositeurs ont subi l'influence de la musique électronique, même s'ils n'en font pas. Moi, je n'en fais pas, par exemple, mais j'ai changé ma façon de penser et d'orchestrer depuis que je connais la musique électronique.
Et sur quel plan ? Est-ce que vous pouvez préciser ça ? C'est tout à fait intéressant.
Eh bien, parce que la musique électronique a le pouvoir de faire entendre des choses dans des registres suraigus ou dans des registres sous-graves et dans des tempos absolument effroyables qui ne seraient pas possibles avec les instruments d'orchestre. Et ça donne des effets inattendus, et ce sont ces effets inattendus qu'on cherche à reproduire, même quand on n'est pas électronicien. Oui, c'est le cas de Xenakis. Dans le milieu de Xenakis, vous avez des passages tout à fait électroniques, mais qui sont écrits avec des instruments d'orchestre normaux.
Et vous-même, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous livrer à ces
je
plaisirs de l'électronique ?
Je n'ai pas fait de musique électronique parce que je n'étais pas doué. J'ai essayé un petit début il y a de nombreuses années, il y a 40 ans, et je n'étais pas doué.
Et vous n'avez pas recommencé.
Et je n'ai pas recommencé.
Nous venons d'entendre Olivier Messiaen. C'était en 1988. Il était l'invité d'Alain Duhaut à la télévision sur FR3. Comment recevez-vous aujourd'hui ce que nous venons d'entendre, François Bell ?
Ah ben, ça m'avait déjà énormément réjoui. Et d'entendre Messiaen, le plus doué des musiciens que la Terre ait porté, dire qu'il n'était pas doué pour quelque chose est évidemment un ravissement. Il était très doué pour écouter tout de même et pour déceler le potentiel. Effectivement, il y avait tout un aspect instrumental dont Messiaen était bien sûr privé. Mais n'oublions pas que c'était un organiste et que tous les dimanches, il faisait, de la musique acousmatique. On reviendra sur ce mot, des grandes improvisations. Avec des sonorités inouïes que l'on peut tirer d'un orgue, c'est-à-dire le sous-grave et le suraigu puis, dont il parle, et aussi son oreille intéressée par les chants d'oiseaux et les bruits de la nature, et que tout ça passe dans sa musique. On l'entendra aussi dans l'archive avec Goléa tout à l'heure.
Que nous entendons tout à l'heure. Quand en 88, donc à propos de cette musique électronique, mais si on dit « je ne suis pas doué pour ça », ça peut apparaître comme une coquetterie. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire « je n'appartiens pas à ce monde-là, je suis du monde d'avant » ?
Oui, bien sûr, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est dans la charnière. Il est dans du monde d'avant pour une grande partie de sa vie. Mais il est aussi celui qui a était vivement intéressé par un instrument étonnant, qui est, on pourrait dire, le premier des synthétiseurs, l'onde Martenot, qu'il utilise avec une très grande science. Je pense que les meilleures pièces d'onde Martenot sont celles de Messiaen. Il y a très peu de littérature dans ce domaine, mais enfin, il y a aussi des pièces de Tristan Murailles qui sont très, très riches aussi. Messiaen a été étonnamment ouvert à toutes ces idées-là. Il les a introduites au conservatoire, a facilité aussi que le GRM puisse ouvrir un jour une classe au conservatoire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et voilà, donc Messiaen était l'homme de la transition qui a fait passer dans le camp de la musique un certain nombre de choses qui apparemment en étaient exclues. Messiaen, c'était le pape qui donnait des absolutions à un certain nombre de pêcheurs, on peut dire, qui étaient donc tous les expérimentaux de l'époque.
Dans l'entretien de 1957, donc d'Olivier Messiaen avec Antoine Goléa, que nous entendrons tout à l'heure, Messiaen exprimait sa crainte de voir la musique concrète faire table rase de toute l'histoire de la musique qui l'a précédée, d'avoir dans son essence même vocation à détruire tout ce qui existait auparavant. Est-ce qu'il n'y avait pas dans la défiance de Messiaen vis-à-vis de la musique électronique la crainte d'une forme de toute-puissance offerte par les techniques, le matériel d'enregistrement sonore qui met à la disposition du créateur un stock illimité de sons, de sonorités, de tempos, de rythmes ?
Je ne crois pas, je n'interprète pas cette crainte de Messiaen de cette façon. Je pense que Messiaen faisait surtout allusion au mouvement d'une époque. Ce n'est pas au compositeur qu'il en voulait. C'était à la tragédie d'une époque qui a tendance, à cause du fait qu'elle devient de plus en plus technologique, de perdre de vue les valeurs d'un passé moins technologique. Et que Messiaen pense, et je ne suis pas loin de le penser aussi, que l'amour que nous avons pour la musique d'orchestre, ou de piano, ou de violon, ou de quatuor à cordes, risque dans plusieurs siècles de disparaître complètement parce que la civilisation industrielle et technologique aura habitué l'écoute à de toute autre sonorité. Bon, cette crainte, il est légitime de l'avoir. En même temps, c'est une crainte que l'on peut refouler. Il suffit pour cela que les artistes continuent d'être cultivés et imposent finalement les valeurs qui sont des valeurs éternelles. Bach, Mozart, Beethoven sont éternels, sont aussi modernes. Quand je dis éternels, ça veut dire qu'ils ne sont pas anciens. Ce sont des compositeurs d'aujourd'hui. Quand j'écoute du Beethoven, j'entends de la musique contemporaine, c'est-à-dire avec tous les accents que nous mettons dans nos propres musiques. Donc j'espère, mais je comprends l'angoisse de Messiaen, bien sûr.
Vous avez été l'élève de Messiaen. Que vous a apporté son enseignement?
J'étais auditeur. Je n'avais pas les capacités requises pour être élève à cause des connaissances de solfège et d'harmonie dont j'étais démuni à l'époque, que j'ai acquis partiellement par la suite. Mais quand j'ai apporté mes écrits musicaux à Messiaen et qui m'a fait passer une dictée musicale, je me disais, mais comment ça se fait que vous arrivez à faire ce que vous faites en ne sachant pas, mais j'ai dit c'est mon cursus, j'ai expliqué ma vie et il l'a très bien compris et donc il me disait mais oui mais il faudra compléter tout ça. J'ai dit peut-être pas parce que j'envisage plutôt la musique plutôt électroacoustique. Ah, il m'a dit ça. Alors là, dans ces conditions, je vous encourage tout à fait et allez voir Pierre Schaeffer, qui, que, quoi, etc. Donc, j'avais pas besoin de son éloge de Schaeffer, voilà. Et c'est comme ça que Messiaen m'a accueilli pendant plus d'une année dans sa classe.
Dans l'archive suivante au programme de votre nuit rêvée, François Bell, quelqu'un qui a été l'élève de Messiaen, quelqu'un dont vous avez vous-même suivi l'enseignement, quelqu'un qui a compté lui aussi dans l'histoire de la musique du XXe siècle, c'est Karlheinz Stockhausen. Nous l'écouterons dans une conférence aux Rencontres internationales d'art contemporain en 1974. Qu'alliez-vous chercher à Darmstadt auprès de Stockhausen au début des années 60 et qu'en avez-vous rapporté?
Darmstadt était le rendez-vous obligé des gens intéressés par la mutation de la musique. La réputation de Darmstadt avait été, au fond, promue aussi par Messiaen, qui, comme j'ai déjà dit, donnait son approbature à des courants les plus opposés les uns et les autres. La personnalité marquante de Darmstadt à l'époque, ça a été Boulez, Stockhausen et Cage. John Cage, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, et qui est aussi un des pôles de la modernité. Ce n'est d'ailleurs pas celui que je préfère, tout en le prenant en haute considération, parce que c'est un personnage extrêmement attachant, plaisant, intelligent, captivant, mais orientalisant, ce qui est peut-être le défaut de ses qualités. La personne de Stockhausen a rapidement dominé toute cette équipe. Et pour moi, ça a été très utile de comparer trois discours. Le discours de Messiaen, que j'ai connu le premier. Le discours de Schaeffer, que j'ai écouté dans toutes ses conférences à toutes les occasions possibles et ses émissions. Et le discours de Stockhausen. Ces trois discours, si différents, m'ont permis de me construire sans être plaqué au sol par l'un des trois. C'est-à-dire que je me suis vacciné du schaefferisme, du messianisme et du stockhausenisme par cette triple approche qui m'a permis finalement de rester à distance suffisante de chacun des trois pour pouvoir me construire moi-même.
peut-on dire, de Stockhausen, qui n'a jamais cessé d'innover, de chercher, qui a été l'un de ceux qui ont marqué une rupture dans l'histoire de la musique? Peut-on dire qu'il n'a jamais cessé pour autant de s'inscrire dans une tradition musicale, dans une certaine continuité de l'histoire de la musique?
Oui, en même temps, il l'a sacrément bousculé. Et Stockhausen a essayé justement une transition entre la musique, je dirais grosso modo, wagnérienne. On peut dire que c'est une sorte d'hyper-Wagner. Et puis, une tradition plutôt d'origine orientale. Au fond, Stockhausen était un gourou, mais Schaeffer aussi était une autre espèce de gourou. Et Messiaen, c'était pas éloigné non plus, parce que tout le monde connaît le caractère très religieux de Messiaen, son intérêt d'organiste, jouait dans les églises. Donc, au fond, c'était la rencontre de trois églises. L'église proprement dite, avec Messiaen, l'église de la civilisation industrielle avec Schaeffer, et puis le grand courant orientaliste ou mondialiste, ou même universel, puisque Stockhausen pensait qu'il était une émanation de la planète Sirius, et il y retournerait, et il le disait avec le plus grand sérieux, c'est-à-dire qu'on se demandait s'il plaisantait ou s'il était vraiment convaincu, mais au fond... c'était des personnages extraordinaires, il faut le dire.
On sait que Pierre Schaeffer considérait comme essentiel que l'innovation ne soit pas synonyme de rupture avec la tradition musicale. François Bell, partagez-vous cette conviction?
C'est-à-dire que, bien sûr, la tradition musicale, c'est la chose la plus étendue qui soit. La tradition n'est pas le contraire de la modernité. C'est mal comprendre. La tradition, c'est... la modernité à tous les âges, c'est-à-dire que depuis le premier tracé sumérien, en passant par les pyramides jusqu'aux œuvres les plus actuelles, on est dans l'avant-garde. L'avant-garde a été de tout temps, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle l'avant-garde? L'extension des capacités humaines de comprendre, de sentir, d'envisager la trajectoire du travail de sa propre vie. Je pense que tous les hommes éveillés ont été modernes.
Merci François Bell, nous allons écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, Il y a 30 ans, la musique concrète, un dialogue entre Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, orchestré par Roger Pilaudin en 1979. Le 12e et dernier de la série d'entretiens avec Olivier Messiaen au micro d'Antoine Goléa en 1957 sur la chaîne nationale. Et enfin, conférence de Stockhausen aux rencontres internationales d'art contemporain en 1974. Nous nous retrouverons dans 3h15 pour parler de la suite de votre programme, l'histoire musicale du GRM, Voyage au centre de la tête, Bernard Noël, Les choses sensibles par Maurice Merleau-Ponty et pour terminer, La poétique de l'espace par Gaston Bachelard. À tout à l'heure François Bell.
À tout à l'heure Albane.